Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la misère sexuelle dans la police. Ce qui m'a inspiré ce sujet, c'est un podcast d'Arte qui a été publié sur YouTube et qui s'intitule Gardien de la paix. Dans ce podcast, on entend un policier témoigner. Un policier qui se définit comme étant enfant d'immigrés africains, donc qui est lui-même africain, et qui a intégré la police en 2008. Il dit qu'il a au départ été très bien accueilli, qu'il s'entendait plutôt bien avec ses collègues, et que il n'y avait pas vraiment de racisme dans sa section. Ou du moins, il dit que le seul racisme était vis-à-vis des autres. Lorsqu'il était dans une voiture avec ses collègues et qu'il voyait passer une autre voiture avec un Français d'origine africaine ou un Africain ou un Maghrébin au volant de cette voiture, ses collègues disaient Ah, la voiture de bâtard. Donc c'était un peu le code pour définir l'étranger ou l'immigré. Donc il y avait des remarques de ce genre-là, mais c'était jamais envers lui ou c'était jamais envers les noirs de la police. C'était envers les autres, hein. C'était envers les gens, envers la population. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais le jour où tout bascule, c'est le jour où un collègue lui montre un groupe de discussion WhatsApp. Tout d'abord, ce collègue commence par lui montrer un WhatsApp qui n'avait rien à voir, hein. C'était plutôt les photos de sa femme, de ses enfants. Il lui montrait sa famille fièrement. Puis la discussion a petit à petit mené à ce groupe WhatsApp de la police et elle a commencé à lui en parler et lui a montré ce groupe privé WhatsApp que certains collègues avaient et sur lequel certains collègues discutaient. Et il a constaté que dans ce WhatsApp, son nom revenait souvent. Ce policier s'appelle Alex, et il voyait son nom revenir dans ce groupe WhatsApp auquel il n'appartenait pas. Et il y avait beaucoup de vocaux sur ce WhatsApp, il y avait beaucoup de messages vocaux. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut aussi laisser des messages vocaux sur WhatsApp en plus du texte. Et donc, à partir de la minute 4:23 de ce podcast, on commence à entendre ces audios que je vais vous faire partager.
J'étais en patrouille hier avec lui. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, il est sur Adopte un mec. Voilà. Donc, le site, c'est Adopte un mec. À mon avis, je pense qu'il y est depuis pas longtemps, parce que je ne l'ai jamais vu sur ce site-là.
Sur sa photo, on ne le reconnaît pas trop. Hein.
Sachant que il doit charmer à mort de la putain nègre blanche.
Et en plus, il fait vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon, j'aime bien le relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein. En gros, ça veut dire, ouais, bah, vas-y, je profite un peu de toi. De toute façon, je vais pas m'engager pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien te baiser pour te larguer pour une autre après.
De toute façon, ça se voit à sa gueule. Hein. Je veux dire, n'importe quelle gonzesse qui a minuit du jotte sait qu'elle a affaire au nègre typiquement séducteur qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin voilà, ça se voit quoi. Déjà, quand tu entends une gonzesse comme te dire, bah ils sont gentils les princes du désert.
Ce qui est intéressant, c'est que ces audios commencent par une discussion autour du fait qu'Alex soit sur Adopte un mec. Ses collègues ont constaté qu'il avait un profil sur Adopte un mec. Alors, pour arriver à trouver ça, ils se sont peut-être créés eux-mêmes de faux profils de femmes pour aller voir qui étaient les hommes sur Adopte un mec. Et il faut savoir que Rouen est une petite ville. Hein. Tout ça se passe à Rouen, une petite ville que je connais très bien. Il est assez facile de tomber, lorsqu'on est sur une application de rencontre, de tomber sur des gens qu'on peut croiser dans la ville. Et donc, il y a un côté un peu tordu déjà de ses collègues qui ont créé de faux profils, j'imagine, pour aller voir qui étaient les hommes de Rouen qui étaient sur Adopte un mec. Et c'est un peu là que commence mon analyse, c'est que on a beaucoup parlé de la question du racisme par rapport à ce podcast. Et bien sûr, il y a du racisme, il y a du racisme qui est condamnable, et je pense que cela a été largement fait, autant par les médias que sur YouTube, et ces flics vont passer un sale quart d'heure, ils vont perdre leur boulot. Donc, y a pas de, il est indéniable que ces propos racistes sont condamnables, ils ont été condamnés, et ils auront même la double peine, parce que dans la condamnation, il y a la condamnation juridique, il y a le fait de passer devant un tribunal, mais aussi il y a la condamnation économique, hein, le fait de perdre son boulot, parce que quand tu es policier, policier, tu te fais virer, tu fais quoi après, hein? Faut pas oublier quand t'es flic, tu sais pas nécessairement faire autre chose dans la vie. Donc ça c'est pour clore le débat sur le fait que la question du racisme est condamnable, c'est clair. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que beaucoup, quand j'ai annoncé ce podcast, m'ont dit: Ah, l'observateur, tu t'intéresses à la misère sexuelle, et quelque part, tu veux un peu excuser le racisme. Je n'excuse pas le racisme, je vous explique que c'est débattu partout, qu'on en a parlé, surtout en ce moment, avec la mort de George Floyd, le racisme ou la question du racisme est partout. Donc, que moi, j'en rajoute une couche, ça n'aidera pas beaucoup le débat. Ce que je voulais traiter particulièrement dans ce podcast, c'est la question de la misère sexuelle. Parce que lorsqu'on décrypte bien, ces audios ne commencent pas par une insulte directe dirigée vers Alex, donc ce policier noir, mais ça commence par Adopte un mec, ça commence par le site de rencontre, et voilà ce qu'ils disent au sujet d'Alex, il doit baiser de la pute à nègre blanche. Et ils enchaînent avec une critique générale sur les mecs ou noirs ou maghrébins ou qu'ils soient africains, antillais, peu importe, mais tous les mecs un peu exotiques qui baisent les femmes et qui les jettent. Et je les cite, ils critiquent le nègre séducteur qui la fera cocu à tous les niveaux. Puis ils s'attaquent aussi au prince du désert. Donc, prince du désert, c'est les maghrébins pour résumer. Et il parle aussi d'une fille blanche qui serait fille de CRS, son père est CRS, et qui sortirait ou qui traînerait avec des Maghrébins ou des Africains.
Bon, moi je vous le dis, c'est officiel. Vu ce que je viens d'entendre, c'est une putain de nègre. C'est même sûr.
Le problème, c'est que de la part d'une fille de prof, à la limite, je comprends. Pour moi, c'était logique. Mais son père est CRS, putain.
Après, tant pis, hein.
Donc, il faut bien comprendre qu'à la base, leur haine ou leur mépris de ce policier Alex n'est pas uniquement par rapport à sa couleur de peau, mais il est surtout par le fait qu'il baise des gonzesses à tout va et que eux n'arrivent pas à baiser. Et je cite ce qu'ils disent à la minute 6:08. De toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mecs bien. Donc, eux se définissent comme mecs bien qui ne baisent pas, et ils définissent tous les autres, hein, les Africains, les Maghrébins, comme des mecs qui ont du succès avec les femmes. Et ça, c'est un discours typique d'incel.
De toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mecs bien, donc tant pis. Elles prennent le dalle nègre qui les saute et puis qui les lâche après, une fois qu'il a trouvé mieux. Tant pis pour elles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 140 féminicides. Tant pis, les gars, tant pis.
Si tu reprends le discours d'Elliot Rodger, l'incel qui a commis un massacre en Californie, son discours c'était quoi? C'était: Pourquoi vous, les filles, vous ne voulez pas de moi? Pourquoi, alors que je suis le gentleman parfait, alors que je suis beau, intelligent, riche, pourquoi vous ne voulez pas de moi? Et j'ai retranscrit intégralement dans mon livre la partie, ou plutôt ce que raconte Elliot Rodger. Mais dans les grandes lignes, pour ceux qui ne l'ont pas lu, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est un mec qui se plaint du fait que les filles ne veulent pas de lui. Et Elliot Rodger était un peu dans une espèce de délire, parce que physiquement, il n'était pas très moche, hein. Elliot Rodger, il y a beaucoup plus moche, et donc je pense que s'il avait mis un peu d'effort, il aurait pu trouver une copine, surtout qu'il était, c'était un gosse de riche, Elliot Rodger, hein. Il roulait en voiture allemande, il n'était pas dans la dèche, hein. Il était blanc, il était physiquement pas dégueulasse, et il roulait en bagnole. Donc son délire d'incel, c'est un délire qui n'est pas justifiable, tu vois. Un mec qui a une dégaine ou qui a un physique pas très agréable, je sais pas, un mec qui a des traits qui sont pas agréables ou qui déjà part d'une mauvaise base physique. Le mec qui souffre un peu, tu comprends. Tu lui dis: D'accord, t'as la dégaine d'Éric Zemmour, tu pèses 50 kilos à l'ombre, t'as une tête triangulaire, t'as pas beaucoup de traits de masculinité, t'as pas de succès avec les femmes, je te comprends. Faudra bosser sur autre chose. Faudra bosser sur la carrière, faudra bosser sur les vêtements, faudra bosser sur la musculature, faudra faire du sport. Si t'as une mauvaise base, je te comprends, faut que tu bosses. Mais si t'as une très bonne base et que tu te plains de ne pas choper de meuf, la raison, faut la trouver ailleurs. Parce que normalement, si t'es pas trop moche, pas trop con et un peu débrouillard avec un peu de tchatch, tu devrais y arriver. Donc faut bien comprendre que quelqu'un comme Elliot Rodger, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. Et je vous invite à aller voir ses images, ses photos. Le mec n'est pas dégueulasse, mais il est dans son délire où les femmes ne veulent pas de lui. Donc il est tombé dans cette hyper-agressivité et il est allé commettre ces actes regrettables qu'on connaît tous. Et ce qui est intéressant, c'est que ces flics, dans la police, reprennent exactement le même discours. Quand les mecs disent « de toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mecs bien », qui veut dire « nous on est des mecs bien et les gonzesses veulent des bad boys », ils reprennent exactement le discours incel. Et il faut savoir que quand t'es policier, forcément ton statut ne peut pas t'aider. Contrairement aux militaires qui a un peu plus la cote avec les femmes, il vaut mieux être officier, commandant, général qu'être commissaire de police. La police en général n'a pas très bonne réputation parce que la police c'est celle qui contrôle le peuple. L'armée elle est à l'extérieur, elle est projetée, l'armée ne fait pas de mal au peuple. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu plus de respect ou peut-être un peu plus de côté séducteur chez le militaire que chez le flic. Il y a le côté guerrier chez le militaire qui va à la guerre, qui peut être séduisant pour beaucoup de femmes, qu'il n'y a pas chez le policier. Le policier, il fait du petit maintien de l'ordre. Ce n'est pas un guerrier, c'est quelqu'un qui roule en voiture dans les quartiers, qui surveille si il n'y a pas du vol, du racket. C'est pas très prestigieux. Et donc, quand t'es policier, tu ne peux pas jouer sur ton statut. Donc ces mecs-là, si en plus de ne pas avoir de technique, de ne pas avoir de tchatch, ne pas être naturellement doué avec les femmes, en plus, ils ne peuvent pas jouer sur leur statut de policier. Et je continue ce qui va affirmer encore plus ce que je suis en train de raconter. Je continue à citer ces policiers. Alors, c'est dur à entendre ce qu'ils ont dit, mais là, on est dans l'analyse, dans le décryptage. Donc, il faut un peu faire fi de la surface pour aller creuser de façon un peu plus profonde dans leur état d'esprit. Ils disent « Je ne veux plus sauver les gens si les meufs se donnent à des nègres ou à des bougnoules. » Et ils continuent « T'as voulu la couleur, maintenant il faut que tu payes la redevance. » Et je reprends encore ce qu'ils disent à la minute 8-16. Les filles se sentent en sécurité avec des gros bâtards comme ça. Les mecs comme toi et moi qui sont gentils, elles les croient beaucoup trop faibles.
Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des bougnoules, je m'en bats les couilles si après elles sont démontées la gueule, butées, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, maintenant faut que tu payes la redevance.
Après, pour ce qui est des filles, comme tu disais, qui aiment bien les bâtards, parce qu'en fait, pour elles, c'est des mecs qui représentent la sécurité, tu vois. Elles se sentent en sécurité avec des gros bâtards comme ça, parce que les mecs comme toi et moi qui sont trop gentils, tu vois, qui sont pas des connards, ni des cassos, ni quoi que ce soit, elles les croient beaucoup trop faibles, tu vois. Et ce qui est une erreur, d'ailleurs.
Ce que ces putes n'ont pas compris, c'est que ça a beau être des racailles, des cassos et tout ce qui va avec, des putains de bougnoules de merde, tôt ou tard, elles vont finir par le payer, par exemple, quand il y aura l'effondrement économique. Ils sauront pas les protéger, par exemple. Moi, je pourrais, par exemple, qu'elle trouve beaucoup trop faible et beaucoup trop gentille, méfie-toi de Loki d'or, parce que moi, j'ai les armes, par contre. Donc, avec les armes, je serais capable de pouvoir défendre mieux qu'un gros bâtard qu'elle a choisi.
Encore une fois, l'accent sur le discours incel, vous, les femmes, vous n'aimez que les bad boys, vous n'aimez que les bâtards, alors que nous, les garçons gentils, on peut vous protéger, on peut vous aider, on est là pour vous. Et malheureusement, ces hommes, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est la nature profonde de la femme. Et peut-être que mon livre les aurait aidés, parce que je parle justement de ça, de la raison de l'attirance des femmes vers les bad boys, de la raison pour laquelle plus t'es gentil, plus t'es soumis avec une femme, et plus elle va te détester. Parce que ce que veut la femme, c'est le chasseur, c'est le guerrier. Parce que le guerrier, dans l'esprit de la femme, c'est pas celui qui va lui faire du mal. Le bad boy, qu'est-ce qu'elle voit, la femme, chez le bad boy? Parce que vu de l'extérieur, vu par un policier rouennais, naïf, homme vagin, un peu fragile, il voit ça de l'extérieur, mais il dit « je comprends pas ». Le bad boy qui lui fait vivre la misère, Elle s'attache à lui. Il y a beaucoup de femmes battues qui restent avec des hommes. Elles ont la possibilité de partir, mais elles restent avec, et certaines jusqu'à la mort. Certaines, ben, ça dérape, elles se font battre et elles meurent. Mais la psychologie qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que la femme, au travers de l'homme violent, de l'homme agressif, voit une arme qu'elle pourra retourner contre les autres. En gros, pour résumer, l'homme fort, le guerrier, l'homme agressif, c'est aussi celui qui pourra la défendre. Elle se dit, c'est pas grave, il me donne une claque de temps en temps, il est dominant, il est fort, mais je sais qu'il sera aussi capable de donner une claque à un homme qui voudra m'agresser ou me faire du mal. Tout ça, ça remonte à plusieurs millions d'années. On n'est pas dans la raison, même si on est dans un monde sûr où il n'y a personne qui va débarquer chez toi avec une machette pour t'agresser, ou du moins, c'est très très rare si ça t'arrive. C'est une chance sur un milliard, si ça t'arrive, c'est que t'as vraiment pas de chance dans la vie. Mais on est, contrairement à il y a 1000 ans où tu pouvais voir une tribu viking débarquer chez toi pour te massacrer, bon, ces choses-là, c'est fini. Le monde est relativement sûr. Mais dans le logiciel féminin, ce qui a été transmis dans ses gènes au travers de millions d'années, eh bien, ce truc-là demeure. Il lui faut un homme fort, un homme agressif, un homme dominant, même si parfois il est agressif contre elle, même si parfois il est agressif à son égard, eh bien, elle le verra quand même comme ayant plus de valeur que l'homme qui la respecte, parce qu'il pourra la défendre contre des agressions extérieures. Et donc, ces mecs continuent dans leur délire. Ils disent « Elle me croit fragile, mais moi, j'ai des armes par contre. Je la défendrai mieux que ces gros bâtards qu'elle a choisis. » Et pour ceux qui veulent écouter l'audio dans son intégralité, je vous le mets dans la description de cette vidéo. Et les enregistrements où on peut les entendre parler, où on peut entendre les enregistrements WhatsApp, le tout fait 30 minutes, mais vous n'avez pas besoin d'écouter le tout. Le début, c'est Alex qui raconte son arrivée dans la police, et la fin, c'est un peu l'avocate qui raconte le cours de l'histoire. Mais à partir de la minute 4 et 23 secondes, les enregistrements commencent, et vous pourrez écouter tout ce que ces jeunes policiers ont dit. Et ensuite, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Il n'y a pas assez de blanches dans ma section. » Et en gros, il y en a 2 sur 10. Toutes les autres, les 8 autres, sont d'origine africaine. Et c'est aussi l'un des problèmes qui pousse ou qui génère la misère sexuelle dans les grandes villes cosmopolites européennes et nord-américaines. C'est que l'immigration a apporté une pression supplémentaire que l'homme blanc a du mal à supporter, et c'est assez normal. Comme l'immigration a aidé ou a contribué à baisser les salaires, elle a apporté un flux de travailleurs supplémentaires qui a permis de casser les salaires, l'immigration a été organisée, générée par le grand capital, par les usines Renault, Peugeot, par les Bouygues, qui ont eu besoin de main-d'œuvre pour baisser les salaires, parce que lorsqu'il y a beaucoup de travail et pas assez de main-d'œuvre, les salaires explosent. Et le capital ou le capitalisme ne survit qu'avec des bas salaires. Donc les immigrés ont été utilisés pour ça. Et le dégât collatéral, c'est que l'immigration, elle est masculine. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui traversent des océans qui se jettent à la mer pour aller dans un autre continent. Donc, un afflux de mâles excessif dans une région forcément provoque de la tension sexuelle, parce que le nombre de femmes n'augmente pas et le nombre d'hommes augmente. Mais vous allez me dire, mais dans l'immigration, il y a des femmes aussi, il y a des femmes et il y a des hommes, donc ça devrait s'équilibrer. Eh bien, le problème, c'est que non. Non, parce que la femme qui a le plus la cote, c'est la femme blanche. Tous les blancs veulent des femmes blanches, et tous les noirs africains maghrébins veulent aussi des femmes blanches. Alors, ne me demandez pas pourquoi. J'ai même des potes à moi d'origine africaine qui me disent que les femmes noires sont insupportables, qu'elles sont hystériques et qu'ils préfèrent tous les femmes blanches. Et pas uniquement pour leur physique, mais pour leur comportement aussi. Ils les décrivent comme plus stables, plus constantes, moins hystériques que la femme africaine. Donc, Donc, on se retrouve dans une situation où les hommes blancs veulent des blanches, mais tous les hommes issus de l'immigration africaine, maghrébine, et même les Français d'outre-mer, les Antillais, les Guadeloupéens, veulent aussi des blanches. Alors, pas tous, certains sont à l'aise et préfèrent les femmes africaines, mais beaucoup veulent des femmes blanches et on le constate partout. Il n'y a qu'à aller dans un club de salsa, de danse, de bachata, de machin. Tu as toujours l'afro, le cubain, l'antillais qui danse avec une blanche. Il n'y a pas beaucoup de femmes noires dans les clubs salsa. C'est très blanc. C'est très blanc. C'est de la, comme dirait un ami à moi, c'est de la blanche comptable. Il n'y a que ça dans les clubs salsa. Par contre, côté homme, c'est beaucoup d'hommes. Qu'on va appeler de la diversité. Hein. T'as des Noirs, des Maghrébins, des Africains, des Antillais, des Guadeloupéens, des gens des îles au tempérament un peu plus chaud, des mecs qui savent bouger, qui savent danser. Et c'est ça que les femmes blanches vont chercher dans les clubs salsa. Les hommes blancs n'ont pas vraiment la cote auprès de ces femmes parce qu'ils sont plus timides, parce qu'ils savent pas très bien danser et parce qu'ils sont dans un délire un peu plus, peut-être plus rationnel, plus pragmatique. Quand on analyse le comportement de ce policier, le mec dit: Ah, ces femmes ne savent pas ce qu'elles perdent. Moi, j'ai des armes chez moi pour les protéger. Elles pensent que cet Africain ou ce Maghrébin, prince du désert, va les protéger. Mais en réalité, elles ne savent pas que moi, j'ai des armes. Moi, j'ai des armes et je pourrais la défendre. Tu comprends que le mec est dans un délire complet. Est-ce que tu crois qu'une femme va se donner à toi parce que tu as des armes planquées chez toi pour la défendre? Sérieusement, mec, est-ce que tu penses que c'est comme ça que les femmes réfléchissent? C'est comme les mecs dans les boîtes de nuit, c'est toujours comme ça. Dans la boîte de nuit, t'as l'homme vagin, souvent blanc, qui va prendre un verre, qui va payer un verre à 15 $ à une gonzesse qu'il ne connaît même pas, en espérant qu'elle va se donner à lui. Et une demi-heure plus tard, t'as un danseur afro qui la prend par la main, qui la fait tourner, qui lui frotte un peu les fesses et qui rentre avec. Le mec n'a pas dépensé un centime. Pourquoi? Parce que lui a joué sur l'émotion de la femme, il a joué sur le rire, la danse, les mouvements, l'odeur, la sueur, les échanges qui peuvent se faire, les échanges chimiques, les échanges de phéromones. Il l'a fait rêver pendant une demi-heure. Et toi, avant de la faire rire, t'es allé lui acheter un verre. C'est pour ça que je dis, n'offrez jamais, jamais, jamais de verre à des femmes que vous ne connaissez pas. C'est, si vous voulez vous taper la honte, offrez un verre à des femmes que vous ne connaissez pas en boîte de nuit. Il y a plein de mecs qui font ça, c'est ridicule. Parce que tu communiques quoi? Tu communiques que tu n'as aucune valeur et que tu es en train d'essayer d'attirer son attention avec un verre d'alcool. Déjà au départ, au moment où tu lui offres un verre, elle t'a méprisé. À la limite, si vraiment tu veux offrir un verre à une femme, parle-lui pendant une demi-heure, chatte un peu, fais-la rire, essaye d'échanger quelque chose, crée un peu d'émotion, et à un moment, tu peux dire: Ah, tiens, j'ai soif, je vais me prendre un truc, tu veux quelque chose? Et le truc tombe un peu comme naturellement dans la discussion. C'est pas le ouais, salut, tu veux un verre? Ah, tiens, je vais me prendre une bière, tu veux un verre? Sans ne lui avoir parlé, sans l'avoir fait rire, sans l'avoir fait danser. Fais-la transpirer un peu, donne-lui soif. Fais-la bouger avant de lui offrir un verre. Tu vois ce que l'autre mec a compris. Le mec a misé sur la danse, a misé sur le côté émotif de la femme. C'est un peu le duel intellectuel ou plutôt le duel philosophique entre les hommes et les femmes. On est rationnel, elles sont toutes en émotion. On est rationnel du type ce policier que je décris comme un homme vagin, qui explique: Moi je suis gentil, moi j'ai des armes chez moi je peux la défendre. Tu vois, le mec a le mythe de la princesse, il a dû voir trop de Walt Disney dans sa petite maison rouennaise, il a dû voir trop de films hollywoodiens, trop de films de Walt Disney, et je le comprends aussi, je suis moi-même de Rouen, je connais cette culture, je connais ce délire. Tu grandis dans un cocon familial avec le père, la mère, le schéma traditionnel, le respect de la femme, la protection, et tu raisonnes un peu comme lui. Moi, je vais protéger les femmes, et c'est peut-être pour ça qu'il est devenu flic, j'en sais rien. Moi, je vais protéger les femmes sont faibles, les femmes sont fragiles, moi j'ai des armes, moi je suis gentil, moi je vais les faire rêver, je vais les faire voyager. Puis il croit à ce logiciel, tu vois, il est à fond dans ça. Puis il sort en boîte, il commence à sortir, à connaître des femmes, et il voit des bonhommes qui arrivent comme ça, qui leur claquent les fesses, qui les font danser, qui rentrent avec elles au bout d'une heure. Et lui qui essaye comme ça, très durement, très gentiment, il achète des fleurs, il paye des restos, et il baise pas. Il baisse pas, le mec il comprend pas. Il voit le prince du désert arriver en chameau, balancer deux vannes, rentrer avec la fille, et lui il est là à acheter des verres, à payer des restos, à essayer encore et encore, et les femmes ne veulent pas de lui. Et forcément, petit à petit, tu développes du ressenti. Et c'est surtout ça que je voulais transmettre, parce que si ce mec, Alex, ce policier d'origine africaine, ce policier noir, n'avait pas de succès avec les femmes, est-ce que ses collègues lui en auraient autant voulu? Est-ce que ses collègues auraient été aussi méchants et aussi violents avec lui? Parce que lorsqu'on réécoute l'audio et qu'on enlève le prisme du racisme basique, qu'on enlève le prisme des médias, médias dominants, qu'on enlève le prisme George Floyd, la pleurniche, etc. Lorsqu'on enlève tout ça, le truc, il a quand même commencé par des policiers qui sont allés sur Adopte un mec. Les mecs ont créé un faux profil pour aller voir ce que leurs collègues d'origine africaine étaient en train de faire sur Adopte un mec. Et le discours, tout le discours, en fait, en réalité, est un discours de jalousie, est un discours du mec qui ne baise pas, qui développe de la jalousie d'incel, de la jalousie que tu peux avoir quand t'es en misère sexuelle, envers le mec qui, lui, baise. Mais si le mec n'avait pas de succès avec les femmes, si on avait le même Alex, qui était afro, mais qui était moche, moche, voilà, un Africain petit, gros, chauve, qui n'a rien pour lui et qui attire pas les femmes, qui ne sait pas danser, qui est pas drôle, parce que les mecs que je viens de vous décrire là, petits, gros, chauves, qui savent danser, ils emballent quand même, hein, les clubs salsa, c'est la cour des miracles. J'ai vu des mecs repartir avec des meufs. Tu te dis, c'est pas possible. Le mec est fini à la pisse, il est rentré avec une bombasse. Ça arrive. C'est pour ça que la danse est un savoir qu'il faut travailler pour ceux qui veulent tenter. C'est incroyable. C'est la cour des miracles. J'ai vu des Chinois, des Blacks pas spécialement attirants, rentrer avec des gonzesses, des vieux, rentrer avec des gonzesses, mais j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais comment il a fait? C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai découvert l'importance de la danse, l'intérêt de la danse, et comment, contrairement au club où tu vas gesticuler comme un abruti, un club salsa ou bachata peut beaucoup te faciliter la tâche parce que t'es déjà dans cette ambiance où les gens dansent, se touchent, se parlent, rigolent, etc. Et ces policiers, au lieu de se moquer d'Alex ou de l'insulter, je sais pas, peut-être qu'ils auraient dû lui parler, peut-être qu'ils les auraient embarqués. Je me rappelle, quand j'étais à Rouen, il y avait un club salsa qui s'appelait la Luna. Peut-être qu'ils les auraient emmenés là-bas et qui leur auraient appris comment choper. Blague à part, il faut bien comprendre ça. Il y a un facteur jalousie qu'on ne peut pas négliger. Et plus je réécoute cet audio, parce que je l'ai écouté 4-5 fois minimum pour préparer ce podcast et pour comprendre, et plus je le réécoute, plus je perçois le niveau de jalousie qu'ont ces policiers envers Alex. Au-delà du racisme, pour moi, le racisme est comme un by-product. C'est un dérivé, c'est un truc à côté. Comme tu n'aimes pas ce mec parce qu'il baise toutes les meufs qui bougent et toi, ça fait 3 ans que t'as pas vu un cul, faut bien que tu l'insultes sur quelque chose. Et si la race, l'origine est le truc le plus proche, eh bien, tu vas le tacler là-dessus. Au passage, c'est quelque chose où c'est une conception qui n'est pas forcément juste et pas forcément toujours juste. Parce que comme ils ont vu un Africain ou quelques Africains ou un Maghrébin ou quelques Maghrébins choper des meufs, ils en ont déduit que tous les Africains baisaient à tour de bras. Ce qui est complètement faux. Il y a plein de misères sexuelles chez les Africains, chez les Maghrébins. Il y a une quantité phénoménale de misères sexuelles. Tu vas voir un, deux ou trois gars choper des meufs en boîte de nuit ou en club salsa, mais derrière, tu as toute la partie immergée de l'iceberg et tu as aussi chez les Maghrébins et chez les Noirs africains de la misère sexuelle. Faut pas croire que tous les blacks de France baisent à tout va. C'est un peu ça aussi la fausse idée ou la fausse image qu'on a. Parce que ceux qu'on voit, c'est peut-être les plus présents, c'est peut-être les plus exubérants, c'est peut-être ceux qui affichent le plus leur réussite avec les femmes, et peut-être que ça nous interpelle plus. Donc on le remarque, hein, quand tu vois dans la rue un black avec une belle blonde ou un maghrébin avec une belle blonde, ça t'interpelle plus que lorsque tu vois un blanc avec une belle blonde. Tu vois, un blanc avec une belle blonde, tu te retournes pas dans la rue. Tu dis, bon, voilà, quoi, c'est un couple blanc. Mais le contraste entre le black, le maghrébin et la blonde fait que tu es plus attentif à ça. Et du coup, tu as l'impression que tous les maghrébins marchent avec Adriana Carambeu au bras. Ce qui est complètement faux. Toutes les cités françaises, toutes les banlieues françaises sont bourrées de misère sexuelle. Parmi les gens qui m'écrivent et qui me parlent, je compte une partie considérable de Français d'origine africaine ou d'origine maghrébine. Donc la misère sexuelle et la difficulté dans cette communauté existent. Donc faut arrêter déjà à la base d'avoir le biais de ces policiers qui imaginent que tous les Noirs et que tous les Arabes baisent à tout va et que toutes les Françaises et que toutes les Blanches. Que toutes les blanches comptables rêvent de baiser un homme exotique. Ça peut être le cas pour certaines. Certaines ont vraiment ce délire et ne se donnent qu'à un homme qui est exotique. Elles ne se donneront jamais à un blanc de son ethnie ou de sa race et elles ne voudront que des hommes exotiques, africains, antillais, maghrébins, parce que c'est ça qui les fait frémir. Mais c'est pas, faut pas en faire une généralité. Et on peut se demander aussi pourquoi ces femmes européennes ne veulent plus de ces hommes blancs qui les ont émancipées. J'en avais parlé dans mon podcast au sujet des migrants où j'expliquais pourquoi les femmes blanches débarquaient avec des pancartes Welcome Migrants, bienvenue aux migrants. On ne comprend pas, on se dit mais c'est quoi ce délire? Les femmes traitent les hommes blancs de macho, on parle de masculinité toxique, on explique que le blanc ou que l'homme blanc c'est mal, c'est le méchant, etc. Et ensuite on prend une pancarte et on se met à toutes les gares, à tous les aéroports avec une grande pancarte Welcome Migrants. Et à la base, le migrant c'est quelqu'un qui vient des territoires traditionnels, hein, le migrant afghan, le migrant syrien. Ils viennent pas de Suède, les mecs, hein, l'égalité des sexes, tout ça, ils ne connaissent pas. Donc c'est vrai que quand on voit ça de loin, on se dit que c'est une civilisation de malades. C'est quoi ces femmes qui critiquent l'homme blanc qui les a libérés, parce que le droit de vote, c'est l'homme qui l'a donné à la femme. Toute l'émancipation féminine n'aurait jamais été possible si l'homme blanc n'avait pas choisi de libérer les femmes. Et on se dit, une fois que les femmes ont été libérées, elles se mettent à détester les hommes qui les ont libérées. Eh bien, c'est justement ça. Les femmes détestent les hommes qui les ont libérées parce qu'elles considèrent ça comme une faiblesse. Si tu veux, la libération des femmes, c'est le plus grand shit test de l'humanité. Les femmes ont shit testé les hommes en disant on veut de la liberté, on veut être émancipé, on veut travailler, on veut être votre égal. Et les hommes ont répondu, ou les hommes occidentaux du moins ont répondu, d'accord, très bien, on vous laissera travailler, vous serez notre égal. Et les femmes se sont dit, quoi? Vous venez de rater votre shit test, les mecs. Nous, on déconnait quand on disait ça. Nous, on veut des mecs qui nous prennent, on veut des mecs qui nous tirent les cheveux, on veut des mecs qui nous claquent les fesses. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de libération? L'homme blanc a raté son shit test. Et donc, maintenant que les femmes ont été libérées, elles font quoi? Elles prennent des pancartes Welcome Migrants et elles vont à toutes les gares, à tous les aéroports, Welcome, Welcome Migrants, venez nous démonter l'anus. L'homme blanc nous a libérés, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut être prises, on veut être prises comme des femmes. On veut vous sentir, on veut sentir des fessées, on veut sentir des claques, on veut sentir du tirage de cheveux. On veut sentir le mâle dominant. Et donc, si t'as compris ça, si t'as compris pourquoi les femmes se pointent aux aéroports et aux gares avec une pancarte Welcome Migrants, t'as tout compris. L'homme blanc, en libérant la femme, a raté son shit test, le plus grand shit test de l'histoire de l'humanité. Et donc, quand tu débarques dans une boîte de nuit avec ton verre d'alcool que t'as payé 15$ en lui disant « tu veux boire, je te paye un verre, je t'offre un verre », elle t'a déjà méprisé, mec. Elle t'a déjà méprisé. Elle attendait le mec qui la prenne par les mains, qui l'emmène sur la piste de danse, qui la fasse tourner, qui la fasse rêver, qui la bouscule un peu, qu'elle sente un peu le mal, qu'elle sente un peu ta sueur. Et ensuite, elle va discuter avec toi. Lorsqu'elle a senti ta testostérone, lorsqu'elle a senti que à l'intérieur de ce corps, il y avait des couilles, elle se dit « bon, ben, je vais peut-être lui donner mon cul à ce stade ». Et tout ce que je vous raconte est présent chez ces policiers incel qui racontent « nous, on est les gentils, nous, on est les gentils, mais elles veulent des bad boys, on comprend pas, qu'est-ce qui se passe, moi, j'ai des armes !» Puis le podcast continue, hein, les mecs font la liste de toutes les armes qu'ils ont, le mec, il y en a un qui raconte qu'il avait une page Facebook, et aussi une chaîne YouTube où il parlait de ses armes, de ses machins, et il raconte que ça a été supprimé, ça a été striké, etc. Et quelque part, tout ce qu'ils font, c'est un peu compenser la bite qu'ils ont perdue, ou c'est un peu compenser la testostérone qu'ils ont perdue. Parce que lorsque tu te décris en tant qu'homme par le nombre d'armes que tu as chez toi, et ça, c'est très intéressant, très intéressant à écouter et à comprendre. Lorsqu'un homme, pour justifier sa masculinité, te parle de ses armes et de ses fusils, c'est que quelque part, le mec a compris que son corps ne valait plus rien. Il a complètement abandonné le fait de se défendre par lui-même, par son corps, d'affirmer sa masculinité par qui il est, et il commence à faire sur des sites la liste de toutes les armes qu'il a, lorsque un de ses policiers dit « elle me croit gentille, mais moi j'ai des armes par contre, moi je la défendrai mieux que ce gros bâtard. » Ça résume tout. Ça résume tout. Elle me croit gentille, mais moi je ne suis pas gentil. J'ai des armes chez moi, j'ai des armes, je pourrais la défendre. Si elle se donne à moi au lieu de se donner à ce gros bâtard, eh bien, je la défendrai, je la protégerai. On est encore dans Walt Disney, dans Hollywood, on est encore dans ce délire de l'homme gentil qui veut protéger la femme. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que la femme ne veut pas être protégée par des mots, par une espèce de gentillesse. La femme veut sentir physiquement que tu la protèges. C'est au moment où tu lui prends la main, c'est au moment où tu lui tires les cheveux, c'est au moment où tu la baises sauvagement qu'elle comprend que t'es le mâle dominant. C'est pas quand tu lui fais lire ta liste d'armes, regarde, j'ai un fusil à pompe, j'ai un machin, j'ai une mitraillette, viens, je vais te protéger, on va baiser. Et ça, c'est un peu un constat d'échec chez ces hommes. Beaucoup les ont insultés, méprisés, mais moi j'essaye un peu de lire entre les lignes, et ce que je vois, c'est du désespoir, c'est de la misère sexuelle, c'est une abandon, et c'est du désespoir face à un monde, quelque part, qui ne veut plus d'eux. Lorsqu'ils sont rejetés par une femme, c'est très fort symboliquement pour un homme, lorsque t'es rejeté par une femme, ça veut dire qu'elle refuse de se reproduire avec toi, elle refuse que tes gènes continuent, elle refuse que tu transmettes tes gènes. Et donc, symboliquement, c'est la mort, symboliquement, c'est la nature qui te refuse la reproduction et qui te refuse la transmission de tes gènes. C'est pour ça que la misère sexuelle peut avoir des débouchés extrêmement agressifs et extrêmement violents. Et quelque part, beaucoup de choses ramènent à cette misère sexuelle. J'en ai parlé au travers de la transmutation sexuelle. Quand cette énergie est mal canalisée, l'énergie peut avoir beaucoup de débouchés, elle peut avoir des débouchés créatifs. Par exemple, ces mecs, au lieu de subir la misère sexuelle, au lieu de subir la frustration, eh bien, transformer tout ça en sport, en série de pompes, en voyage, en transformant leur corps. Si le mec revient après 3 mois de voyage où il fait le tour du monde, où il a bronzé, où il s'est musclé, où il a une dégaine différente, il verra que plus de femmes le regarderont. Lorsqu'il parlera de ses voyages, au lieu de parler de sa collection d'armes, il verra qu'il fera un peu plus rêver, que les femmes le respecteront un peu plus. Lorsqu'il postera sur son Instagram ou sur son Facebook, peu importe son réseau social, ses photos de voyage autour du monde, il aura un peu plus d'attrait. Le mec deviendra un peu plus sexy, un peu plus aventurier, un peu plus exotique. Et c'est pas du tout avec sa collection d'armes qu'il fera mouiller les femmes. Et à partir de la minute 9:29, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, et là, dans le WhatsApp, on sort un peu, dans ces audios WhatsApp, de la question de la misère sexuelle, du racisme et de la jalousie que ces flics ont pour Alex, et on va vers un sujet très intéressant qui parle du cosmopolitisme et de la façon dont les producteurs de musique, les producteurs dans les années 80, ont contribué à la gauchisation et ont contribué à la dégénérescence. Et là, quelque part, on touche un sujet un peu plus intéressant. On sort de la jalousie, du racisme primaire et de la misère sexuelle, et on arrive vers une vraie analyse quasi politique. Et il parle dans les années 80 de la gauchisation de la musique au travers des ondes FM. Et ils expliquent comment des promoteurs juifs, pour la plupart, ont fait la promotion du rap. Il est vrai que cette dégénérescence a aussi quelque part été provoquée. Lorsqu'on voit ce qu'est devenu le rap, et lorsqu'on le compare à ce qu'était la culture afro-américaine aux États-Unis, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Lorsqu'on regarde B.B. King, Miles Davis, John Coltrane, des mecs propres sur eux, habillés, toujours en costard, toujours bien habillés, qui savaient jouer de la guitare électrique, du saxophone, du piano, des artistes, des mecs de talent. Quand tu les écoutes, tu sens qu'ils sont structurés dans leur tête, tu sens qu'ils apportent quelque chose à l'humanité. La culture afro-américaine, aux États-Unis, c'était ça. Et il y a un livre qui en parle beaucoup, un livre qui s'intitule « L'imposture du rap » et qui explique comment le rap a servi à instiller la dégénérescence dans la culture américaine. Il y a eu un rap au départ qui était un rap authentique qui n'était pas trop mauvais. Par exemple, le rap d'MC Solar, c'est quelque chose de très bon. C'est l'un des seuls rappeurs, hein. J'allais dire les rares, mais je n'écoute pas beaucoup le rap et j'ai jamais vraiment compris le délire. Mais MC Solar, c'est quelqu'un que j'arrive à écouter. Et quand on entend, quand on écoute ses paroles, sa musique, il y a du talent, il y a quelque chose. On n'est pas dans les gonzesses à moitié à poil, allongées sur une Ferrari ou sur une bagnole en train de bouger leur cul. On n'est pas dans le scénario des nouveaux clips de rap avec des gonzesses à moitié à poil en train de bouger leur cul sur une bagnole. Le cliché du rappeur avec la grosse chaîne, la dent en or, les boucles d'oreilles, les tatouages, les machins. Dans ce truc un peu complètement décadent et que beaucoup, malheureusement, beaucoup d'Afro-Américains ont suivi, le pantalon qui tombe ras les fesses, cette espèce de cliché, cette culture du gang, du gangster, de la prison. Alors que l'émancipation des Afro-Américains, c'était pas ça. C'était pas ça. Si on veut comprendre ce qu'a été la fin de l'esclavage et l'émancipation des Afro-Américains aux États-Unis, il faut s'intéresser au blues, il faut s'intéresser au jazz, il faut voir comment étaient habillés B.B. King, Miles Davis, John Coltrane, il faut voir comment parlait Malcolm X, il faut voir comment ils étaient habillés. Les mecs étaient tous en costard, cravate, il n'y avait pas de pantalon qui descendait ras le cul, il n'y avait pas cette dégénérescence. Et donc, il a fallu détruire tout ça, parce que si les Afro-Américains commencent à réfléchir, à s'émanciper, à rentrer en compétition finalement avec les Blancs aux États-Unis, ça devenait dangereux pour les WASP. Donc il a fallu casser cette culture, il a fallu la tirer vers le bas, et le rap a fait beaucoup de dégâts, énormément de dégâts dans la culture afro-américaine, dans les clichés, dans l'imaginaire collectif, dans le rapport à l'argent. On a expliqué aux jeunes que c'était pas par le travail, par l'éducation qu'il fallait s'en sortir, mais c'était plutôt par le braquage, la drogue. Regardez comme ces rappeurs ont des femmes, ils ont des harems, des Mercedes, c'est des bad boys, toutes les femmes les aiment. On a créé un peu cet imaginaire autour du rappeur à un point où quand t'es afro-américain dans les années 90, t'as pas envie de devenir autre chose que rappeur, quoi. C'était basketteur ou rappeur, de toute façon. C'était ou Kobe Bryant Jordan ou un rappeur. Donc la culture, et donc ces producteurs, comme le disent ces flics, producteurs pour la majorité juifs, hasard ou pas, allez comprendre, qui ont poussé à la dégénérescence, et ce sont ces gens-là qui ont poussé à la gauchiasserie, à l'effondrement des valeurs, à la femme objet. Hein, quand on regarde les clips de rap, on s'est habitué aujourd'hui, donc on ne fait plus attention. Mais moi, ça me choque toujours, la dégaine des gonzesses, les espèces de... Elles sont carrément en maillot de bain, en train de se frotter contre des bagnoles, en train de se frotter le cul contre des pneus, contre des jantes. Puis je me dis, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est même dans la vie réelle, t'as pas ça. Où est-ce que t'as vu une gonzesse en train de se frotter le cul contre une jante de bagnole dans la rue? Ça n'existe pas, même dans les villes les plus dégénérées des États-Unis. Et tu vois ça dans tous les clips de rap, des gonzesses en train de lécher le capot, en train de lécher le pare-brise et des essuie-glaces vivants. Et tu comprends bien que ça, c'est volontaire. Il y a une volonté de détruire derrière. Il y a une volonté, on connaît la force de l'image. Et il y a une volonté derrière de détruire cette jeunesse américaine qui avait commencé, ou plutôt afro-américaine, qui avait commencé par le jazz, par le blues, par la musique, par la littérature, à rentrer en compétition avec les blancs. Et si vous voulez voir un peu le niveau de décadence, ben allez sur Google, regardez des photos de B.B. King, regardez des photos de Miles Davis, de Malcolm X, de John Coltrane, et regardez la dégaine des rappeurs d'aujourd'hui. Vous comprendrez le niveau de décadence. Et pour finir, ces policiers partent sur un autre délire qui est le délire de la guerre des civilisations. Pour parler de la guerre des civilisations, il faut vraiment avoir été lourdement influencé par le discours dominant, le discours de Zemmour, le discours zémourien, parce que beaucoup de gens pensent être un peu dans la dissidence en parlant de guerre des civilisations. Beaucoup de gens pensent que c'est borderline. Mais ce n'est pas borderline, c'est ce que les médias dominants racontent. Un mec comme Zemmour qui a 4 heures d'antenne par jour et qui parle de... guerre des civilisations du matin au soir, faut comprendre que tu es dans le discours dominant. Il n'y a rien de caustique, il n'y a rien de provocateur là-dedans. Zemmour est mainstream, il est diffusé partout et son discours est mainstream. Donc ça me fait rire quand les gens se considèrent dissidents en parlant de guerre civile raciale, par exemple. C'est le mot à la mode, la guerre civile raciale. Mais parler de guerre civile raciale, c'est très mal. Connaître l'Afrique, c'est très mal connaître le Maghreb et c'est très mal connaître le monde blanc. Parlons de guerre civile raciale, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et mettons des mots sur les choses. Cette guerre civile raciale, elle opposera qui? Elle opposera, d'après ceux qui en parlent, les blancs à tous les autres. Tous les gens des banlieues, immigrés, maghrébins, noirs africains, peu importe. Tout ce qui n'est pas blanc. Et c'est croire quelque part qu'il y a une espèce de coalition de tous les immigrés ou de tous les Français d'origine immigrée africaine et maghrébine contre les Blancs. Et partir de ce principe, c'est déjà ne rien comprendre à l'Afrique. Pensez-vous vraiment que le Malien se sent proche du Congolais? Pensez-vous vraiment que le Nigérian se sent proche du Ghanéen? Pensez-vous vraiment que le Zoulou sud-africain se sent proche de l'Ivoirien? Il n'y a pas de coalition africaine, il n'y a pas de convergence des luttes en Afrique. Les Africains eux-mêmes, entre tribus, se font la guerre, entre religions, se font la guerre. Est-ce que le Camerounais musulman se sent proche du Camerounais chrétien? Est-ce que le Camerounais nigérien, et pas nigérian, il y a une différence entre le Niger et le Nigeria, là je parle du Nigeria, est-ce que le Nigérien qui se sent proche de Boko Haram, qui se sent proche d'un groupe islamiste terroriste, est proche d'un Nigérien chrétien? Vous avez compris que la réponse était non. Est-ce que le Marocain se sent proche de l'Algérien? Pour ceux qui ne savent pas, entre le Maroc et l'Algérie, il y a toujours eu des tensions politiques. Ce sont des pays qui sont sur deux alignements différents. L'Algérie, après son indépendance, a choisi un alignement communiste pro-russe et pro-Union soviétique, et le Maroc, historiquement, est plutôt atlantiste. Le Maroc est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Le Maroc est beaucoup plus aligné sur la France, parce que le Maroc était un protectorat, donc il n'y a pas la même histoire coloniale entre la France et l'Algérie. Et donc, ces deux pays, qui ont d'ailleurs des frontières qui sont fermées, en plus des tensions au sujet du Sahara occidental et du Polisario, Algérie qui souhaite son indépendance et le Maroc qui le considère comme partie intégrante de son territoire. Donc, penser que Algériens et Marocains pourraient comme ça fonder une coalition pour se battre contre les Blancs, c'est ne rien, mais alors là, ne rien comprendre à la réalité de l'Afrique. Il n'y a pas de coalition africaine, il n'y a pas de coalition Maghreb-Afrique subsaharienne pour aller se battre contre les Blancs. Il y a plus de chances d'ailleurs que les gens se battent au sein des mêmes communautés que d'imaginer comme ça une coalition entre étrangers, ou plutôt africains, maghrébins et Blancs. Donc c'est très mal connaître. À la base, la géographie, la culture et la structure de l'Afrique, qui est un continent extrêmement compliqué, extrêmement difficile à comprendre et extrêmement chargé aussi en tensions, en guerres, en guerres ethniques. Hein, au sein de l'Afrique, il y a des ethnies qui ne se supportent pas. Et sachant que cette tension existait déjà, d'ailleurs, le colonialisme n'a jamais eu de mal à diviser les Africains entre eux. Le colonialisme n'a jamais eu de mal à utiliser ces différences pour gérer ou provoquer des guerres civiles, des massacres, les Hutus contre les Tutsis. Et tout ça, ça se passe au sein de l'Afrique. Donc il faut comprendre que déjà, entre Africains, il y a des problèmes. Et au sein des Blancs, c'est la même chose. Comment imaginer qu'il y aurait comme ça une armée blanche qui se battrait contre une armée étrangère ? C'est quoi le camp des Blancs ? Est-ce que quelqu'un qui vote FN ira se battre dans le même camp qu'un gauchiste qui fume des pétards du matin au soir ? Est-ce qu'il y a vraiment une coalition blanche qui fait bloc ? Est-ce que les Blancs chrétiens vont aller se battre dans la même équipe avec les Blancs orthodoxes ou avec les Blancs protestants contre des musulmans ? Est-ce que des Blancs juifs et des Blancs catholiques vont aller ensemble se battre contre des musulmans, sachant que entre Blancs catholiques et Blancs juifs, théoriquement, on a déjà une petite... un petit problème, quoi. Il y a un peuple qui a rejeté le Christ et qui l'a fait crucifier par les Romains, et un peuple qui se revendique du Christ. Donc, est-ce que blancs juifs et blancs catholiques peuvent marcher ensemble dans la même direction ? Moi, je ne pense pas, et je sais que c'est impossible. Alors, le protestant et le juif ont déjà un peu plus de... sont déjà un peu plus proches au niveau de leur logiciel de pensée. Donc penser comme ça qu'il y a un bloc homogène blanc qui va faire la guerre à un bloc homogène africain, c'est ne rien, mais alors là, ne rien comprendre à l'histoire de l'Afrique, à sa géographie, à sa culture, à ses religions, à sa complexité, et c'est aussi ne rien comprendre à l'histoire de la France et de l'Europe, et de ses complexités géographiques, culturelles, ethniques, philosophiques, etc. Sans parler d'une mixité qui est déjà en marche et qui est déjà largement diffusée. Il y a beaucoup, énormément de métis en Europe, et donc ces gens-là, ils font la guerre dans quel camp ? T'as une guerre civile raciale, les métis t'ont fait quoi ? Est-ce que tu les considères noirs parce qu'ils sont plus marqués comme noirs que blancs? Est-ce que tu les considères blancs parce que malgré tout, ils sont à 50% blancs? T'en fais quoi? Donc là, parler comme ça de guerre civile de façon manichéenne, il y a des blancs qui vont aller courir après les noirs dans la rue, ou il y a des noirs qui vont aller courir, ou des maghrébins qui vont aller courir après des blancs dans la rue, c'est vraiment, encore une fois, croire au bisounours. On est vraiment, encore une fois, dans ce logiciel zémourien qui pourtant devrait connaître un peu mieux l'Afrique, parce que c'est de là-bas qu'il vient, le berbère qu'il est devrait connaître mieux sa culture, et plus on connaît l'Afrique, plus on comprend, plus on s'y intéresse, et plus on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de bloc où l'Afrique, où les Africains ne pourront jamais faire bloc contre l'Europe parce qu'ils sont eux-mêmes en leur propre sein, sans parler des diverses ethnies, rien que par les religions, l'Afrique musulmane est complètement déconnectée de l'Afrique chrétienne. Les gens ne se marient pas entre chrétiens et musulmans, ne se fréquentent pas entre chrétiens et musulmans. Donc, c'est pour ça que depuis toujours, la guerre religieuse a toujours été beaucoup plus généralisée que la guerre ethnique ou que la guerre raciale. La guerre ethnique n'a jamais été une guerre globalisée. Ça a toujours été des tribus entre elles, des zones géographiques très très limitées, alors que la guerre religieuse, les croisades, ben ça part d'Europe et ça arrive à Constantinople, ça arrive à Jérusalem, et on est plutôt dans un conflit. Le conflit généralisé mondial, il est plutôt religieux et idéologique que racial. La guerre froide, ça n'a pas été la guerre des races, ça a été la guerre idéologique, parce que dans le capitalisme américain, il y a des blancs, des noirs, des juifs, des musulmans, des protestants, des catholiques, il y a tout dans les États-Unis. Mais ce tout-là était capitaliste. Qui se battait contre l'Union soviétique, où t'as des Slaves, des Kirghizes, des Mongols, des Kazakhs, des chrétiens, des musulmans, des Tchétchènes, mais tout ça était communiste. Et donc on a assisté à un vrai combat de titans, entre deux idéologies. Et il n'y a pas eu de discours racial dans la guerre froide, parce que les deux blocs étaient déjà multiethniques. Autant les États-Unis d'Amérique que l'Union soviétique étaient déjà très largement multiethniques. Donc la guerre raciale est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins probable que la guerre idéologique ou que la guerre religieuse. Et ça, c'est le passé qui nous le prouve. Et donc, pour conclure ce long podcast, parce que je réalise que ça fait bientôt 1 heure que je parle, il faut savoir lire entre les lignes et ne pas faire l'erreur des médias dominants qui n'ont simplement parlé que de la question raciste, même si elle existe, et je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Mais lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on fait le travail que je fais, qu'on essaye un peu de comprendre et qu'on gratte sous la surface, on voit ressurgir les questions de misère sexuelle, de jalousie. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast Des incels dans la police, misère sexuelle et incels dans la police, parce que le fond du fond, lorsqu'on écoute ses premiers audios, ça commence par adopteunmec.com, ça commence par un site de rencontre. Avant même que les mecs ne décochent la moindre insulte raciste, avant même que les mecs ne commencent à parler de couleur de peau, leur première préoccupation, c'était leur collègue Alex, qui avait plus de succès qu'eux avec les femmes, et leur première préoccupation, c'était de voir à Rouen ces Africains, ces Maghrébins baiser des blanches, alors qu'eux n'avaient pas vu ou n'avaient pas eu accès au sexe depuis des années. Et leur souffrance, elle vient de là. Après, il appartient à chacun de savoir la canaliser. T'en fais quoi de cette misère sexuelle? Eh bien, il faut savoir gérer la chose à ton niveau et en fonction de ton propre logiciel. Ou tu la canalises, tu la transformes en activité utile, pratique, tu deviens quelqu'un de meilleur, tu deviens quelqu'un de plus fort, tu travailles sur toi-même, tu apprends des langues, tu te développes, tu voyages, tu fais du sport, tu deviens positif, tu deviens optimiste, tu crées une vie intéressante qui fait que les gens naturellement voudront aller vers toi. Apprends à être à l'aise avec les femmes, apprends à faire de l'humour, apprends à les toucher. Rends ta vie intéressante au lieu d'écouter ces mecs qui font des collections d'armes et qui t'expliquent comment ils vont faire la guerre civile raciale, etc. Deviens un homme meilleur avant d'insulter le reste du monde. Parce que ce qui se passe avec ces hommes-là, c'est que ils passent leur temps à insulter les autres, mais ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Ils passent leur temps à dire ouais, de toute façon, c'est une pute, elle baise qu'avec des noirs, elle baise qu'avec des princes du désert, et moi, je suis un garçon bien, et elle veut pas me regarder. Mais j'en sais rien si t'es un garçon bien. J'en sais rien, je te connais pas. Peut-être que t'es pas si bien que ça. Ce flic qui dit « Moi, je suis un garçon bien, les femmes ne me regardent pas. » Mais j'en sais rien si t'es un garçon bien, mec. Fais tes preuves. Déjà, à la base, t'es flic. Le départ n'est pas... Je suis désolé de te le dire, mais si t'es flic, tu pars pas avec une base extraordinaire. Donc déjà, ne dis pas aux femmes que tu fréquentes que t'es flic. C'est pas glamour. C'est pas attirant. Tu vois, si t'es militaire, tu peux peut-être te la péter un peu plus. Mais quand t'es flic, garde-le pour toi. Donc tu ne peux pas te la péter avec ton statut, tu ne peux pas vendre ton statut aux femmes, c'est plus facile si t'es médecin, avocat, chirurgien, architecte, cosmonaute, tout ce que tu veux. Mais flic, tu pars de loin, donc déjà, fais autre chose, tu vois, au lieu de mettre flic sur ton profil, mets coach en taekwondo, ou coach en arts martiaux, je sais pas, fais quelque chose qui rend ton statut ou ta vie un peu plus glamour. Puis va faire de la boxe, va faire du karaté, fais des choses intéressantes, mec. Arrête de pleurnicher et de croire que le monde te doit tout. C'est ça le problème des incels, c'est de dire « Ah, moi je suis génial !» Il y a aucun discours chez les incels concernant le travail sur soi. Il y a zéro discours concernant le travail sur soi. Il y en a aucun qui te dit « Oui, il faut peut-être que je parle plus de langue, faut peut-être que je m'améliore, faut peut-être que je fasse du sport, faut peut-être que je voyage, faut peut-être que je travaille ma musculature. » Il n'y en a aucun qui dit ça. La plupart, c'est de la pleurniche. C'est Elliot Rodger. C'est exactement ça, le discours d'Elliot Rodger. C'est « Les femmes, vous ne m'aimez pas. Je suis le gentleman suprême. Je suis le meilleur homme sur la terre. Mais vous, les femmes, vous ne m'aimez pas. Vous ne me regardez pas. » Ben, tu vas aller loin avec ce genre de discours. Hein. Déjà qu'à la base, t'es pas au sommet de la pyramide. Mais si en plus tu te perds dans la pleurniche, tu vas pas aller loin dans la vie, mec. Et ces policiers sont exactement dans le discours de la pleurniche des incels. Et ça, il faut en être conscient. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup du mal ou des mâles de notre société tournent autour de la misère sexuelle des hommes. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.